Alors ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Au travers de cette rencontre, donc le Fils de Dieu et la femme samaritaine, Dieu nous montre combien il nous aime. On a parlé un petit peu de son amour la semaine dernière, si vous étiez là. Mais là encore, dans ce passage, Dieu nous montre son immense amour pour nous. C'est dans cette interaction entre la femme et puis Jésus. Alors d'abord, on va lire au verset 4, donc chapitre 4, Jean. Il est dit « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie ». Alors on est persuadé qu'il n'y a pas de hasard, hein, c'est clair, il n'y a pas de hasard. Et Jésus a voulu passer par cette ville, c'est évident, hein, pour rencontrer cette Samaritaine. Néanmoins, il y a aussi un contexte qui nous montre que la Judée est en bas d'Israël, la Galilée est en haut, et au milieu, il y a la Samarie. Donc, nécessairement, il fallait traverser la Samarie pour aller jusqu'en Galilée. Et on peut dire que déjà, c'est son amour qui se manifeste pour cette femme samaritaine. Quand vous regardez un petit peu l'histoire, vous voyez qu'il y avait une vraie haine, un vrai rejet entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi ? Parce que les Samaritains, c'était des païens qui s'étaient mariés avec des Juifs ou des Juifs avec des païens. Et donc, ils avaient un sang qui était mélangé. Alors, il y avait ce rejet des Samaritains. C'est comme s'ils faisaient partie d'une caste qu'on met à part. Pour parler crûment, c'était des bâtards, quoi. Hein, pour eux, c'était ça. Rien de plus que ça. Et les Juifs, eux, se gardaient purs, donc à l'écart des païens. Ils ne se mélangeaient pas avec les Samaritains. Ils ne leur adressaient pas la parole. Certainement pas, ils allaient recevoir de l'eau d'eux. Non, impossible. Pas un verre d'eau. Et c'était réciproque. Et là, Jésus va engager la discussion avec cette femme samaritaine. Il va même être prêt à recevoir de l'eau de sa main. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment, ça a renversé les conventions, ça a renversé les habitudes, les règles même. C'est devenu comme des règles, hein. Pourquoi le fait-il? Qu'est-ce qui le pousse, en fait? Est-ce que c'est la soif? Non, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Il aime. Il aime cette femme perdue. Jésus est assis au bord du puits. Le texte nous dit qu'il était fatigué. C'est intéressant de lire ça. Il était fatigué du voyage. Combien de fois nous sommes fatigués aussi, hein? C'est intéressant de se dire, Jésus a connu la fatigue. Comme moi, je suis épuisé. Il sait ce que c'est que d'être épuisé. Et donc, il peut aussi me comprendre, hein? Ça rapproche Jésus de nous, de notre condition humaine. Et donc, il est assis sur le bord du puits. Et la Samaritaine arrive pour puiser de l'eau. Le texte nous dit que c'était la sixième heure. Et en fait, on calculait l'heure à partir de 6 heures du matin du lever du jour. Donc 6 heures, sixième heure, en fait, c'était midi. C'était le soleil à son zénith. Hein. Il était en haut, il faisait très chaud. Et là, il y a cette femme qui vient puiser de l'eau. Et c'est assez étonnant parce que toutes les femmes venaient puiser de l'eau dans la matinée, à la fraîche. Ils ne venaient pas à midi. Et elle vient puiser de l'eau, elle est seule. Seule, et Jésus qui est là sur le bord du puits. Certainement, elle n'avait pas envie de rencontrer les autres femmes du village. Hein. Elle était à l'écart. Hein. Mais Jésus, lui, veut la rencontrer. Et au verset 7, nous voyons que c'est Jésus qui va engager la conversation. Il lui dit « Donne-moi à boire ». Donc c'est lui qui prend l'initiative. C'est toujours comme ça. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Le verset qui était affiché durant le culte disait « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Hein, » C'est lui qui commence à nous aimer, alors après, nous l'aimons. Et Dieu vient toujours en premier. Parfois, le Saint-Esprit va agir, va travailler. On l'a vu dans le témoignage de Kevin et Laetitia. Hein. Il prépare à l'avance, il travaille le cœur, il agit dans les circonstances. Nous, on ne le sait pas. On ne l'imagine pas. Et puis, c'est le jour où finalement on vient à Dieu qu'on dit « Mais en fait, là c'était Dieu, là c'était Dieu, là c'était Dieu. » C'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est intéressant, Dieu vient à notre rencontre. Il vient vers cette Samaritaine. Et ça suscite une question aussi pour nous, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens. Est-ce que nous, dans son attitude, l'attitude de Dieu, eh bien nous sommes le reflet de Dieu? Est-ce que nous, nous agissons de la même manière? Par exemple, en cherchant à aimer avant que notre prochain nous aime. Vous savez, parfois, les gens ne nous aiment pas. Est-ce qu'on les aime malgré qu'ils ne nous aiment pas? C'est important. Le Seigneur nous montre qu'il faut aussi aimer ceux qui ne nous aiment pas, à son image. C'est ce qu'il a fait pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés alors que nous étions des ennemis même, loin de lui. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Matthieu 5, versets 46 à 48, on lit ici, Matthieu 5, verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et Dieu attend que, eh bien, on soit capable aussi de faire un pas vers des personnes qui ne nous aiment pas forcément. Qu'on les aime avant qu'ils nous aiment. Alors Jésus va faire un pas vers celle qui ne l'aimait pas. Il ose même lui demander une faveur. « Donne-moi à boire. » Et regardez la réponse de la Samaritaine, verset 9. La femme samaritaine lui dit: « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Cette dernière phrase est plus un commentaire de Jean. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Elle dit simplement « Comment toi qui es juif, tu oses me demander à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire en répondant par cela? Comment interpréter sa réponse? Est-ce que c'est « Ah oui, bien sûr, je vais te donner de l'eau » ou c'est « Mais non, tu rêves. » La Samaritaine ne va pas lui donner à boire. En fait, elle dit non. Non, non. Elle ne le connaît pas. Pour lui, Jésus, c'est un juif. Les juifs traversent la Samarie, un autre juif traverse la Samarie, il le demande à boire. Ben non, non, non. Surtout qu'il y avait une attitude qui était hautaine, qui était méprisante, les Juifs, mais vraiment, ils rejetaient avec virulence les Samaritains. Alors, eh bien, c'est non, non. Pourquoi je te donnerai à boire? Est-ce que ça va arrêter Jésus? Eh bien, non. Et on voit que l'amour de Dieu nous aime malgré un non. Malgré un non, Dieu nous aime quand même. Son amour ne va pas s'arrêter devant un non. Et heureusement, heureusement qu'il en est ainsi. Combien de personnes disent non à Dieu? Elles disent non. Et pourtant, le Seigneur continue à les aimer. Et il va continuer à aimer cette femme. Et la conversation ne va pas s'arrêter là. Un homme normal, à la place de Jésus, il aurait dit « Ah oui, bah garde-la ton eau. Garde-la. » Mais Jésus reste et discute avec elle. Parce que Dieu aime toujours, malgré un non. Et c'est vrai pour beaucoup de personnes. Il y a plein de personnes qui disent non au Seigneur. En fait, elles n'ont pas d'intérêt pour Dieu, pour Jésus-Christ. Elles n'ont pas envie, même parfois elles le rejettent ouvertement, c'est plus qu'un non. Mais Dieu les aime quand même. Dieu peut passer quand même au-dessus de ça, et il les aime quand même. C'est vrai aussi pour nous chrétiens, quand vous réfléchissez. Parce que parfois, c'est nous qui disons non. Non. Le Seigneur nous demande quelque chose, et on lui dit non. On ne devrait pas, bien sûr. C'est dramatique qu'en tant que racheté, on puisse dire non au Seigneur. Mais pourtant, c'est ce que nous faisons parfois. Dieu nous dit d'agir d'une manière... Dieu nous dit de renoncer à quelque chose. Dieu nous dit non. Et nous, on lui dit non, 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 je vais le faire quand même, ou je ne vais pas renoncer, ou pas encore, demain. Et ça continue comme ça. C'est une manière de dire non. Et le Seigneur nous aime quand même. Il n'est pas arrêté par un non. Son amour ne cesse pas parce qu'il y a un non. Il nous aime encore et encore et encore. Il nous aimera toujours. Et c'est sans limite. Et même c'est sans condition. Il nous aime. Point. Il nous aime. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et on voit que la Samaritaine est ignorante. Elle est ignorante de ce que Dieu peut faire dans sa vie, ignorante du don de Dieu, il lui parle du don de Dieu. Elle ne sait pas toutes les grâces, toutes ces sources qui sont en Jésus et qu'il veut lui donner. Elle est ignorante. Et par ses paroles, c'est comme si le Seigneur veut susciter de la soif. Il veut lui donner envie de recevoir tout ce qui vient de lui. Quelle est la réponse de la Samaritaine? Regardez versets 11 et 12. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Quelle est sa réponse ici? Est-ce que c'est « oui, bien sûr » Non, toujours pas, toujours pas. C'est comme si elle le prend un peu sur le ton de la rigolade, un peu « tu parles ». T'as rien pour puiser d'abord. D'où tu aurais cette eau vive? L'eau vive, vous savez, c'est une eau qui coule et qui coule. C'est un torrent. Voilà, c'est une rivière qui coule fort. Où tu auras cette eau vive? Il n'y a pas de rivière. Tu me fais rire. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui l'a donné à ses fils, à ses troupeaux, et qui nous donne de pouvoir encore boire aujourd'hui, On boit grâce à qui? Jacob, Jacob, lui, on le connaît, On le connaît, mais toi, qui es-tu? Et on peut dire que Dieu nous aime malgré nos sarcasmes, malgré notre ironie, malgré notre moquerie. C'est incroyable l'amour de Dieu. Dieu nous aime et son amour n'est pas affecté par la méchanceté qui peut sortir de notre cœur. Il n'est pas affecté. Incroyable. Il est amour et il nous aime. Point. Tout simplement. Regardez Jésus crucifié. Matthieu 27, 39 à 44. Matthieu 27, 39 à 44. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. » Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de tous faire là? C'était des sarcasmes, c'était des moqueries. Ils le voyaient comme incapable. Quelle est la réponse du Seigneur? On la trouve dans un autre évangile. Seigneur, il dit « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on peut dire que Dieu regarde au-delà de la folie des hommes, au-delà de leur méchanceté, et il voit leur ignorance. Et la Samaritaine, avec sa petite pointe de sarcasme là, n'arrête pas l'amour de Jésus. Regardez versets 13 et 14. Donc Jean 4, 13 et 14. Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, Jésus continue à parler de l'eau vive, une eau vive qui désaltère, une eau qui étanche la soif, hein. Une eau qui va même devenir un bienfait, une bénédiction, hein. Il dit que ça va même jaillir et se prolonger donc jusque dans l'éternité. Jésus a une eau qui peut venir donner à cette femme ce qu'elle n'a pas. Une eau qui peut vraiment changer sa vie. Quelle est sa réponse? Regardez verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Alors c'est certain que quand vous lisez un texte, vous ne savez pas toujours sur quel ton la chose est dite. Hein, parce que, voilà. Sauf s'il y a des mots qui vous le révèlent, eh bien, vous ne savez pas forcément sur quel ton c'est dit. Et là, eh bien, on peut le prendre de deux manières différentes. On peut l'imaginer d'abord comme découvrant qu'il a l'eau qui va venir étancher sa soif, et elle dirait « Ah ben Seigneur, donne-moi de cette eau !» Mais on peut aussi le prendre et l'entendre avec une autre attitude, c'est-à-dire l'attitude qu'elle avait jusqu'à présent. Parce que c'est juste la continuité de sa conversation ici. Hein. Et la femme, la Samaritaine ici, n'a pas encore compris qui est Jésus. Elle ne sait pas encore qui est-ce. Et elle est toujours dans cette même attitude, vous savez. Ça coule, hein, c'est la suite. C'est la suite. Et elle est plutôt encore hein, sur un ton un peu où « Donne-moi de cette eau. Vas-y. Comme ça, je ne viendrai plus puiser ici. » Elle est toujours moqueuse, distante. Elle ne voit pas qui il est. Certainement, elle lui dit avec un petit sourire en coin, « Allez, vas-y, donne-moi de cette eau. » En fait, elle est incrédule. Elle ne croit pas en lui. Et on peut dire que Dieu, son amour passe au-dessus même de l'incrédulité. C'est clair, il passe au-dessus de l'incrédulité. Et c'est encore vrai aujourd'hui pour notre monde. Quand il est dit « Dieu a tant aimé le monde », quel est ce monde? C'est un monde incrédule. Hein, c'est un monde qui ne croit pas encore. Hein. Et il est certain que Dieu attend de nous la foi, mais ça ne l'empêche pas de nous aimer alors que nous ne croyons pas encore. Il nous aime. Et il nous appelle bien sûr à croire, comme cette Samaritaine qui ne croyait pas encore. L'amour de Dieu n'est pas arrêté par notre incrédulité. C'est valable aussi pour nous, enfants de Dieu, vous savez. Parfois c'est nous qui doutons. On est enfants de Dieu et on ne croit pas, on doute. On doute que Dieu peut finalement répondre à une prière. On doute que Dieu puisse finalement faire quelque chose. On a le doute qui vient. Mais voilà, Dieu ne cesse pas de nous aimer. Il nous aime d'une manière qui est infinie. Ce n'est pas quantifiable. C'est-à-dire, on ne peut pas le mesurer, l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Regardez Éphésiens 3. Éphésiens 3, 18 et 19. Éphésiens 3, 18 et 19. Paul dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et Paul nous dit que l'amour de Christ dépasse ou surpasse toute connaissance. Il est large, il est long, il est profond, il est élevé, élevé. Et ça va même au-delà de notre connaissance, de notre compréhension. Voilà, on a une connaissance de la dimension. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de l'espace, on va parler en années-lumière. Imaginez ça, une année-lumière. La vitesse de la lumière, 300 000 km seconde, pendant une année. C'est énorme! Alors, on arrive à dire, cette étoile est à autant d'années-lumière. Un chiffre astronomique. voyez un peu la dimension, c'est... Voilà, ça nous dépasse. L'amour de Dieu va au-delà de notre connaissance. C'est rien. C'est plus que des années-lumière. Bien plus. Et on en goûte les effets, vous savez, hein. Quand on chute, quand on tombe bas et qu'on se sent encore aimé, ben là on se dit waouh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Dieu ne cesse pas de nous aimer, sa grâce ne cesse pas, son secours ne cesse pas, sa main vient encore nous prendre et nous relever. C'est son amour. Et même si la Samaritaine est incrédule, même si elle ne croit pas vraiment que Jésus puisse lui donner une eau vive qui va effectivement venir étancher sa soif, hein, sa soif spirituelle, Jésus ne cesse pas de l'aimer. Et il va lui prouver, en allant encore un peu plus loin dans la conversation, regardez, verset 16, il lui dit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Et là, j'appellerai ça le test. C'est un test. Il va tester cette femme. Il va regarder dans son cœur pour voir si elle est vraie. Qui est-elle vraiment? Est-ce qu'elle vit dans un mensonge? Est-ce qu'elle se ment à elle-même? Est-ce qu'elle aime la vérité? Est-ce qu'elle veut de la vérité? Versets 17 et 18. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Pourquoi il pose cette question? Pourquoi il lui dit, vas-y, appelle ton mari? Il pose le doigt sur son péché. Il est en train de poser le doigt sur son péché. Alors, on ne connaît pas toute l'histoire de cette femme. On connaît très peu, finalement, hein. On sait qu'elle était à midi au puits. Probablement, elle voulait éviter les autres. Quelle réputation avait-elle, hein? On ne sait pas, hein. On apprend qu'elle a cinq maris. Est-ce qu'elle avait été veuve cinq fois? C'est possible, hein. Mais c'est beaucoup quand même, hein. Est-ce qu'elle avait été répudiée? On ne sait pas. Était-ce de son fait? Est-ce qu'elle était victime? Tout ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle n'avait pas une bonne réputation. Mais ce que l'on sait, c'est que là, elle vivait en concubinage. Elle était dans la débauche. La Bible appelle ça de la débauche. Aujourd'hui, le monde appelle ça concubinage. Mais Dieu dit, c'est du péché, c'est de la débauche. Pourquoi? Parce que l'union sexuelle entre deux personnes a été réservée pour un homme et une femme qui se marient, qui s'engagent pour la vie. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est sa volonté. Et la Samaritaine, elle est dans la débauche. Elle est dans le péché. Mais l'amour de Dieu n'est pas arrêté par son péché. Il va au-delà de son péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Elle passe au-dessus. Sinon, eh bien Jésus n'aurait pas envoyé son Fils pour mourir sur une croix. Dieu aime au-delà du péché de l'homme. Et ce qu'il fait, un peu comme une... Je pense que c'est une marque d'amour aussi, hein, pour ne pas nous laisser dans le péché. Eh bien, il vient mettre le doigt sur notre péché. Il nous montre, voilà ce qui ne va pas en toi. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, il est pur, il est sans péché. Il ne peut pas accepter le péché. Et on ne peut pas avoir une communion avec Dieu si on est dans le péché. Il faut obligatoirement régler cette question du péché. Alors, eh bien, parce qu'il nous aime, il s'approche de nous, il pose le doigt sur notre cœur, il nous convainc de péché. Et ce n'est pas toujours facile. On a vu dans le chapitre précédent, hein, les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc les hommes n'aiment pas, hein, qu'on vienne mettre le doigt sur le péché. Ils n'aiment pas ça. Mais c'est nécessaire si on veut le comprendre, si on veut se repentir et si on veut finalement eh bien, connaître Dieu, avoir la vie éternelle. Et ça fait mal de voir que quand on est devant Dieu, eh bien tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. On est transparent devant Dieu. On ne peut pas lui cacher. Ça, c'est impossible. On peut cacher aux hommes, mais on ne peut pas cacher à Dieu. Dieu voit tout. Il pose le doigt dessus et il dit, ça va pas. Ça va pas. Maintenant, c'est intéressant de voir la subtilité, le tact de Jésus. Parce que, regardez ce qu'il lui a dit. Il lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est intéressant quand même. Il lui dit pas, tu vis dans la débauche, repens-toi. Non. Va, appelle ton mari, viens ici. S'il lui avait dit ça, vous savez, elle aurait probablement dit, mais de quoi tu te mêles ? De quoi tu te mêles ? Mais là, eh bien, il passe par un autre chemin. Et il l'amène à, finalement, eh bien, reconnaître hein, la réalité. Je n'ai pas de mari. Je suis avec quelqu'un, mais je n'ai pas de mari. Je ne suis pas marié. Je suis dans le péché. Et on peut dire qu'on est à un virage ici, dans la conversation entre Jésus et cette femme. Jusqu'à présent, Jésus n'était qu'un juif, hein, qui demandait de l'eau, c'était tout. Hein. Les Samaritains, comme je vous disais, en croisaient souvent, c'était normal. Mais parce que Jésus va lui révéler tout de ce qui est dans son cœur, d'un seul coup, eh bien, tout change en fait. Hein. Tout change ici, c'est un virage. Le Seigneur a lu dans son cœur et il lui montre qu'il la connaît réellement. Alors là, eh bien, ses yeux s'ouvrent et on peut dire que c'est la révélation. C'est une révélation. Et pour connaître Dieu, à un moment, eh bien, Dieu s'approche de nous et il se révèle à nous, il se montre à nous. Et là, eh bien, il se révèle à cette femme. Et c'est comme s'il lui dit, je te connais. Et c'est pareil avec nous, vous savez. À un moment, Dieu nous dit, je te connais. Parce que on lit un verset dans la Bible, paf, on le reçoit en plein cœur. Et on se dit, mais comment c'est possible? Je te connais. Ou bien on entend une parole qui est prêchée, la parole prêchée, hein, où Dieu nous dit, je te connais. Et là, on est saisi, c'est la révélation. On comprend, c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est Dieu, il me parle, il me parle. Alors, verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Tout change, là tout est changé. Mais elle voit pas qu'il... comment dire? Elle ne reconnaît pas encore Jésus, mais elle voit qu'il vient de Dieu. Parce qu'elle dit, tu es prophète. Tu es prophète, tu dois venir de Dieu, c'est pas possible. Dieu te donne accès à une connaissance hein, d'en haut. Pour me connaître comme ça, c'est pas possible, tu es prophète. Donc déjà, il y a un pas, hein, il y a quelque chose qui change. Alors tout de suite, puisque tu es prophète et tu reçois eh bien, de Dieu, eh bien, tu vas pouvoir me dire, moi je comprends pas. Regardez verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle ne sait plus en fait. Elle se pose ces questions, elle ne comprend plus rien. Où faut-il adorer? Qui dit la vérité? C'est vrai que parfois, nous on se pose la question. Hein. Certaines personnes, elles se disent, mais je ne comprends rien. Il y a tant d'églises. Hein. Il y a l'église un tel, l'église... Je ne sais plus, je suis perdu. Je suis perdu. Qui dit la vérité? Versets 21 à 24. Regardez la suite. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient... où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Et la Samaritaine, ici, va apprendre quelque chose d'important. Malgré le conflit qui opposait les Juifs et les Samaritains, bien le salut vient des Juifs. Le salut venait des Juifs. Hein. Il ne fallait pas l'oublier. Hein. C'est Dieu qui avait demandé à l'origine que son peuple ne se mélange pas avec les autres peuples. Hein. Donc, même si ça avait atteint une attitude qui était extrême vis-à-vis des païens, eh bien... c'était Dieu qui avait demandé de se séparer. Et Dieu n'avait jamais choisi un Samaritain pour être un prophète. Hein? D'ailleurs, la parole de Dieu dit que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, les paroles de Dieu, tout l'Ancien Testament, a été confiée à des Juifs. Et puis, une bonne partie du Nouveau Testament. Et donc, le salut vient des Juifs. C'est clair. Ça vient des Juifs. Et s'ils adoraient à Jérusalem, ce n'était pas un choix personnel. C'était parce que Dieu aussi avait permis, avait voulu que cela soit ainsi. Mais cette question du lieu d'adoration, elle est plus importante aujourd'hui. Avant, il y avait un lieu. On peut dire qu'il y avait un seul lieu. Il fallait qu'on vienne apporter ses offrandes au Seigneur à Jérusalem. C'était établi, puisque depuis le roi Salomon, depuis le temple, et puis même on peut remonter un peu plus loin, parce que c'est le mont Morija, où Abraham avait sacrifié Isaac, et donc, voilà. Depuis lointain, le passé, eh bien, c'était là qu'il fallait adorer. Mais bientôt, eh bien, ça n'aura plus d'importance. Jésus dit, c'est pas cette montagne qui compte, et ça sera pas Jérusalem qui compte. Parce que la venue de Jésus et le don du Saint-Esprit ont tout changé, en fait. Maintenant, quand on reçoit le Saint-Esprit, eh bien, on a la capacité d'adorer Dieu, peu importe le lieu, que je sois à Jérusalem, ou que je sois à Perpignan, ou que je sois ailleurs, eh bien, Dieu est présent avec moi de la même manière. Et je peux l'adorer de la même manière. Ça dépend plus du lieu, ça dépend de l'attitude du cœur. C'est ça qui est vraiment important. Et on peut être en communion avec Dieu partout, partout. C'est plus le lieu, c'est plus non plus un rituel, c'est plus une église, c'est plus un mouvement. Partout, partout. Ça dépend de mon cœur. Si mon cœur est repentant, si je reconnais mon péché, si j'ai saisi Jésus-Christ pour mon sauveur, c'est ça qui compte. C'est ça qui est vraiment important. Pourquoi Jésus dit que cette heure-là n'était pas encore venu, parce que Jésus n'était pas encore mort pour les péchés. Et parce que Jésus n'était pas mort, eh bien, il n'était pas encore ressuscité. Et parce qu'il n'était pas ressuscité, il n'était pas encore monté au ciel. Et parce qu'il n'était pas monté au ciel, il n'avait pas fait l'expiation de nos péchés. Ça veut dire que le pardon de Dieu n'avait pas encore été réellement accordé. Et parce que le pardon de Dieu n'avait pas été réellement accordé, eh bien, je ne pouvais pas recevoir le Saint-Esprit. Les croyants n'avaient pas encore le Saint-Esprit dans leur cœur. Ils n'étaient pas encore scellés. Et donc, ils ne pouvaient pas adorer Dieu partout et en tout lieu. Ils n'avaient pas cette liberté que les chrétiens ont aujourd'hui. Mais tout ça, eh bien, ça s'est produit. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a fait l'expiation, il a présenté son propre sang. Dieu a agréé le sang, Dieu a pardonné réellement. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte. Depuis ce moment-là, alors, eh bien, ceux qui croient, ceux qui reçoivent le don de Dieu, eh bien, Dieu est avec eux et ils sont en communion avec lui sur toute la surface de la terre. Ça ne dépend plus d'un lieu. Alors, versets 25-26, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » J'aime bien la manière fidèle, je trouve, avec laquelle ils ont représenté la scène dans le film. C'est quand même, c'est saisissant, quoi, saisissant. Certainement, voilà, ça a dû se produire de cette manière. Et en entendant Jésus dire, « Je le suis, c'est moi qui suis le Messie, moi qui te parle. » Elle a dû avoir une émotion. Elle a été submergée par l'émotion, là. Ça l'a bouleversée complètement à l'intérieur. Elle était dans l'attente du Messie. Et pour elle aussi, le Messie, c'était la solution. C'était la délivrance. C'était la lumière, c'était la clarté, c'était la réponse à toutes ces questions. D'ailleurs, elle le dit, je sais que quand le Messie viendra, il nous expliquera toutes choses. C'était la réponse. C'était son espérance. Alors quand il lui dit, c'est moi, ne cherche plus, je suis le Messie. Incroyable, incroyable. Immédiatement prise de cette émotion, elle court, et elle va dire à tout le monde, voilà, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ? Incroyable. Et elle ramène tout le village avec elle. Et on voit que Dieu nous aime. Il nous le révèle encore au travers de cet amour. Son amour est étendu, profond, élevé. Et ce n'est pas un non. Ce n'est pas parce qu'on lui dit non, Seigneur, qui cesse de nous aimer. Non, il nous aime encore. Ce n'est pas parce que parfois il y a du sarcasme, hein, il y a de l'incrédulité, ou bien du péché, carrément. J'aimerais prendre un dernier verset avec vous. C'est Jean 14, verset 1. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Et Dieu nous aime, Dieu nous aime. Est-ce que nous voulons l'aimer en retour? Est-ce que nous voulons lui dire « Je crois en toi, je crois en toi. » Alors, on peut avoir un court moment de prière maintenant et on peut lui dire qu'on l'aime si on le veut. N'ayez pas peur de lui dire « Je t'aime. » N'ayez pas peur.